Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***?
So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Les guépards, quand ils poursuivent des buffles,
ouais.
Les guépards en ligne droite, ils peuvent courir jusqu'à 110 km/h. Donc les buffles font des virages comme ça. Les buffes disent, bon, bah, il n'y a pas le choix, en ligne droite, on est baisé. Donc, faut faire des virages. Et qu'ils font des virages. Et que le guépard, il a capté un truc, c'est que s'il met une balayette au moment où il y a un virage, eh ben, il le chope. Donc, les guépards ont appris à mettre des balayettes. Je trouve ça fou de faire ça. Moi, les balayettes, je voyais ça au collège, c'est y a un gars, il venait, tiens, viens là, allez bien, t'as Doudou Nelliansen. Paf, il te pétait une balayette.
Mais c'est ça que je kiffe, c'est que tu vois un animal, tu vois son délire, et derrière, t'arrives facilement à voir un personnage de la vie de tous les jours.
Pour moi, c'est le guépard, c'est un racketteur de Doudou Nelliansen au collège.
Si vous êtes tombé sur un passage d'un humoriste sur scène au Festival de Montreux, vous vous êtes déjà peut-être demandé comment il a écrit son texte, enfin surtout, qu'est-ce qui lui en a donné l'idée. Du coup, avec le Montreux Comédie Festival, on a créé Yellow Mike, un podcast qui retrace l'histoire derrière une bonne vanne et comment elle a évolué pour arriver jusqu'en Suisse et faire rire des gens. Je m'appelle Félix, vous écoutez la deuxième saison de Yellow Mike. Aujourd'hui, je reçois Baptiste Le Caplin. Bonne écoute.
La mort ! Pardon, excusez-moi. Bonsoir, ça va ? La mort !
L'année dernière, t'es venu avec un passage sur la réincarnation et l'éducation.
Ouais.
Et tu commences donc, tu rentres, on appelle Baptiste Le Caplin, tu rentres sur scène et là tu cries « La mort !» Et ensuite tu dis bonsoir.
Ouais, ça c'était une idée que j'avais pour choper un rire très vite. C'est une idée que j'ai eue pour Montreux. Parce que oui, maintenant je suis un peu chevronné, je sais que je vais arriver à faire le passage Montreux. Extraire des extraits de mon spectacle, c'est toujours un petit peu particulier parce que moi, j'aime pas dire ça parce que ça fait genre le mec qui se protège des non-rires. Mais il y a un univers, faut rentrer dedans. La mort ! Autant j'ai peur de vieillir, autant j'ai pas peur de mourir. Non. Pas comme ma fille de 7 ans, quelle flippette celle-là ! Dernière fois, elle va me voir complètement paniquée. Elle fait « Papa, papa, pourquoi on meurt un jour ?»« Mais papa, pourquoi on meurt un jour ?» Tu vois, moi, j'étais un peu pris de court. Je lui dis « Bah, on meurt parce que c'est pour qu'il y ait moins la queue chez Disney. » D'un coup, c'est devenu le Joker. Elle fait « Oh, j'espère que tout le monde va mourir, alors. Ma copine a vu que j'avais dit une énorme connerie, du coup elle a répliqué, elle fait « Non mais chérie, tout le monde meurt un jour, certes, mais peut-être qu'après on va se réincarner en animal. Oh » C'est vrai papa, un jour on va se réincarner en animal ?»« Non !» Et non, je suis désolé, faux.
C'est pour ça qu'avec Flaubert, quand on a écrit ensemble, parce que j'ai écrit avec Florent Bernard ce spectacle,
Flaubert, je le rappelle, c'était un des comédiens de Golden Moustache et des Suricates. Et aujourd'hui, c'est un gros scénariste. Il a un podcast qui s'appelle Floodcast aussi.
Et c'est un auteur incroyable. C'est un auteur incroyable qui a des idées brillantissimes. Et j'ai dit, il faut absolument qu'on ait des sketchs qui puissent s'isoler pour Montreux. Mais parce que maintenant, quand tu démarres un nouveau spectacle, il faut que tu aies dans l'optique d'avoir ton 7 minutes qui puisse s'extraire pour Montreux.
Ah, c'est marrant que tu le réfléchisses comme ça.
Oh, bien sûr. Ouais. Plein d'humoristes le pensent comme ça. Montreux te donne un tampon de « Ok, ce spectacle a l'air cool,
et les gens vont le regarder.
Pour toi, 7 minutes court que tu peux faire à Montreux, c'est quoi? C'est
rire très vite, faut choper un rire tout de suite. La mort! Non, bah, pardon, bonsoir, excusez-moi. La mort! Non, voilà, c'était juste. Wow.
Et après, prémisse du coup avec la fille. Après, ta fille.
Ma fille m'a demandé pourquoi on meurt un jour, machin. Et puis après, j'enchaîne sur mon passage, qui est aussi un passage un peu barré. Il y a des persos, ça s'entremêle, donc c'est pas forcément.
C'est ça, les animaux qui sont teubés.
J'adore les animaux teubés.
Ouais, je sais.
Si vous pensez qu'on va se réincarner en animal, vous avez tout faux, les amis. Bah, déjà, il y a un constat très simple. Il y a de plus en plus d'humains sur Terre et il y a de moins en moins d'animaux. Donc, fatalement, il y a un truc qui va pas. Et puis même si les humains se réincarnaient vraiment en animal, il y aurait des comportements un petit peu plus intelligents chez les animaux. Parce que, pardon, on est entre nous. Hein. Mais il y a vraiment des animaux qui sont teubés. Oh, je suis une tortue de mer. J'ai 150 ans. Oh, j'en ai vu des choses, et mon épaisse carapace me protège des requins, des crocodiles, et ça, mon Dieu, qu'est-ce que c'est? Oh non, une paille en plastique! Oh non, mon poing faible! Non mais, faut quand même être complètement con pour vivre 150 ans et crever à cause d'un bout de plastique, hein!
C'est parce que je matais le monde de Nemo et que quand même Samina Seri fait une tortue qui a 150 ans. Faut quand même se retenir ce truc-là. Et puis parce que j'ai eu l'idée aussi, parce que j'ai vu cette vidéo Instagram terrible où t'as un mec qui a une pince, monseigneur, et qui enlève la paille du nez
de la
tortue. Et que oui, effectivement, le nouveau système de boisson du McDo, où je m'en fous partout. En fait, à chaque fois, tu t'ouvres et ça coule vraiment.
Du coup, à cause d'elle, on galère au McDo. Et oh putain, et oh les gars, vous savez quoi? J'espère qu'ils vont lancer les croque-pommes. Ça, c'était un bon délire. Oh merde, fais chier! Ah! C'est à cause de toi, la tortue, ça?
Oui! Mais grâce à vous, je vais pouvoir vivre plus longtemps et faire ce que font toutes les personnes âgées.
Quoi, parler très longtemps à la boulangère?
Non! Cacher mon passif de pédophile!
Hein? Putain, mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est une photo?
Oh, Mimi Sicu! Je l'ai baisé! Après l'avant-première d'un Indien dans la ville à Biarritz, Patrick Timsit m'a couvert, voilà, je l'ai dit. Oh mon Dieu, une tortue pédophile! Rattrapez-la! Je m'enfuis! Rattrapez-la! Rattrapez la tortue! Le lièvre! Le lièvre! Rattrape la tortue! Non! Non! Pas deux fois! Mais vas-y, le lièvre, putain, tu peux le faire, c'est au mental! Mais je doute!
Ah oui, si vous avez pas lu le bouquin, c'est hyper chiant. Hein.
C'est pour ça que j'aime bien le passage que tu as fait l'année dernière, ce qui représente ce que moi j'adore chez toi. Quoi. C'est ces espèces de personnages qui d'un coup existent, puis il y a une digression complètement absurde où tu dis putain, quand est-ce que ça va s'arrêter? Et c'est justement ce personnage de la tortue de mer qui à la fin devient pédophile en fait.
Ouais, j'adorais faire. Ça me faisait marrer de faire une voix de vieux, un vieux pédophile dégueulasse. Et je trouve que ça passe mieux quand on le met dans une tortue. Et ce qui me faisait marrer, c'était ensuite de voir une tortue partir en cavale qui part doucement. Je fais revenir le lièvre, enfin bon, bref. Donc c'est toujours des trucs un peu nimpes, mais ça me permet de mettre de l'absurde et du jeu d'acting, parce que j'adore incarner.
Moi, ce que j'aime bien aussi quand tu fais des animaux, c'est que t'es toujours un peu au milieu, toi, en tant que tu sais, personnage objectif et arbitre.
Ouais.
Tu vois. Et ça me fait trop rire.
Ah ouais, c'est le pendant de la réalité. Je me maintiens. Les spectateurs se tiennent à moi. Ouais. Je leur dis, regardez, comme ça part en couille. Mais il faut qu'ils aient un repère aussi. Parce que je pense aussi aux gars qui rentrent pas dans le délire. Il y en a. Hein. Il y en a pour qui ça doit être long. Hein.
Non mais c'est vrai que si les humains se réincarnaient vraiment en animal, il y aurait un petit peu plus de malice. Ne serait-ce qu'en cas d'attaque. Parce qu'on a tous vu des documentaires animaliers. On saurait quoi faire, tu vois. Vite les gazelles! Les gazelles, courez! Courez les gazelles, il y a un tigre! Oh, oh la gazelle là! Oh, oh, oh la gazelle qui vient de se réincarner, la cour! Alors déjà, la gazelle qui vient de se réincarner, avant elle avait un prénom, c'était Christopher. Donc je veux savoir déjà là, c'est quoi mon prénom de gazelle? Ton prénom de gazelle, c'est. Quoi? Mais c'est nul à chier! Cours, sinon tu vas te faire bouffer! Je ne vais pas courir, j'ai la flemme, d'accord? Le tigre est juste derrière toi! T'inquiète pas, j'ai pensé à un truc de quand j'étais humain, j'ai ramené ça avec moi. Petit laser! Là, le tigre, il fait « Oh, ça m'en fout !»« Oh, ça m'en fout, ça m'en fout, ça m'en fout !» Bah, tu vois, un matin, un documentaire, je me suis dit que ça servirait pour se leurrer. Je l'aurai, je l'aurai, je l'aurai, je l'aurai. Et tu vois, ça fonctionne, c'est... Merde, y a plus de piles.
Je regardais énormément de documentaires animaliers, mon père, il adore ça, il les connaît par cœur. Il dit, oh, je l'ai vu, je suis adore la lionne, à un moment donné, elle monte dans l'arbre à saucisse, là, tu vois, fait des trucs. Et pour moi, les animaux sont beaucoup trop, ils ont un instinct absolument incroyable. Et je pense très sincèrement que, je te dis pas que je crois à la réincarnation, mais je me dis des fois, putain, il y a vachement de malice quand même. Il y a des trucs, c'est des trucs d'humains, quoi. C'est des trucs qui font qu'ils sont fous. Tu vois, par exemple, que les guépards, quand ils poursuivent des buffles,
ouais.
Les guépards, en ligne droite, ils peuvent courir jusqu'à
120 km/h.
107, 110 km/h. Donc, précis, les buffles font des virages comme ça. Les buffles disent, bon, bah, il n'y a pas le choix. En ligne droite, on est baisé. Donc, il faut faire des virages. Et qu'ils font des virages. Et que le guépard, il a capté un truc, c'est que s'il met une balayette au moment où il y a un virage, eh ben, il le chope. Donc, les guépards ont appris à mettre des balayettes. Je trouve ça fou de faire ça. Moi, les balayettes, je voyais ça au collège. Il y a un gars, il venait, tiens, viens là, allez bien, t'as Doudou Nelly-Hansen. Paf, il te pétait une balayette.
Mais c'est ça que je kiffe, c'est que tu vois un animal, tu vois son délire, et derrière, tu arrives facilement à voir un personnage la vie de tous les jours.
Pour moi, c'est le guépard, c'est un racketteur de Doudou Nelly-Hansen au collège. Quoi. Mais parce que je suis fasciné par ça, les animaux, c'est un puits. C'est, je trouve ça absolument génial. Là, je sais que dans le prochain spectacle, je parle des délires sexuels, des couples qui font de l'échangisme et tout, qui aiment bien. Je sais que je vais dire, il y a un lion qui va dire à une lionne. Tu vois le paresseux là-bas, là ? Ouais. Tu veux pas lui lécher le trou de balle ? Et donc, je sais que dans le prochain spectacle, je ferai une lionne qui va lécher le trou de balle d'un paresseux et que le paresseux, il va faire « Oh !» Et que il va « Merde, il y a un lion qui nous regarde !»« Non, mais c'est mon mari, t'inquiète !» Oh. Et donc, il y a un truc que ça me fait marrer que d'imaginer que le lion, qui est le roi, a des délires sexuels un peu crado et qu'il va se taper un paresseux avec sa femme. Quoi.
Mais c'est fou parce que ce truc-là, tu l'écris pas. Enfin, t'es pas sur une terrasse de café, tu sais.
Cette blague-là, je vais te dire, je suis à Cholet après un spectacle avec mon équipe et on parle échangisme, je sais pas quoi. Et à un moment donné, je dis putain, mais les lions, ils doivent faire des trucs. Puis je suis parti, j'ai fait marrer mon équipe à table. Je l'ai noté dans mes notes iPhone. J'ai dit à Flaubert, ça te ferait marrer de voir une lionne lécher le trou de balle d'un paresseux. J'ai la chute qui est complètement conne. Mais voilà, ça me fait rire, donc j'ai mis ça de côté. Peut-être que je l'utiliserai jamais, mais en tout cas, c'est noté. Quoi.
Quand tu fais la gazelle, qui s'appelle Christopher,
ouais.
J'aime bien parler vraiment droit, tu sais, ouais. Sérieusement, de décrire ce qui se passe.
Ouais, mais c'est fou ça. C'est pas des trucs que tu trouves. Je suis pas posé à une table en me disant qu'est-ce que je pourrais trouver. C'est juste, c'est un change que je trouve avec Flaubert, et que ça me fait rire ou des trucs me font rire.
Il y a une vanne qui te sert de transition dans ton passage l'année dernière sur la Suisse que j'aime bien parce que j'ai tellement entendu de vannes sur la Suisse ici à Montreux.
Sur Insta Rocket.
Et
sur...
Et tu vois, ça fonctionne, c'est... Merde, il n'y a plus de piles. Et voilà, je te l'avais dit, abruti, putain, encore un Français, ça c'est sûr. Ouais, c'est marrant. Ah, les Français, c'est des merdes. Ça vous fait marrer, ça. J'ai aucune leçon à recevoir d'un pays qui joue les méchants dans le film Insta Rocket. Bien sûr.
Mais elle est fausse en plus cette vanne. Il y a une meuf qui m'a écrit un long message sur Insta. Elle me dit alors pour info, mais Rasta Rocket, je suis fan de Rasta Rocket. Hein.
Ouais, bah,
non, mais aussi. Pareil, vanne Montreux. Vanne Montreux, je dis voilà, il faut que j'ai une transition qui impacte. Et si j'arrive à avoir un rire sur la transition, j'ai dit ah, c'est marrant, les Parisiens, c'est des connards. J'ai aucune leçon à recevoir de gens qui jouaient les méchants dans le film Rasta Rocket. Et en fait, les méchants dans Rasta Rocket, c'est pas les Suisses. Les Suisses, l'acteur principal, qui joue un méchant dans Cliffhanger, quand même, hein, qui se fait planter dans les stalagmites par Stallone. Incroyable cet acteur. Il a une carrière folle derrière. Il se fait tuer dans Cliffhanger. Il dit il est fan des Suisses. Le connard, c'est un mec d'Allemagne de l'Est. C'est Yul machin.
Oui,
c'est un des meilleurs pilotes du monde. Et c'est aussi un des plus grands connards du monde.
Ils ont pris l'Allemagne.
C'est un Allemand. Allemagne de l'Est, je crois. Ou Allemagne de l'Ouest, je ne sais plus. Mais c'est un Allemand. Et il y a une fille, après le gala, qui m'a écrit, alors vraiment, rectification, c'est des Allemands qui sont les méchants. Je fais, oh, putain, t'as raison. Et je fais, merde, désolé, j'ai fait un mix pour moi dans ma tête. Heisweid, right. Truc de petit Suisse, là. Déjà, le truc du Heisweid, right. Ça nous met, on est jamaïcain, on pense jamaïcain, on doit pratiquer un bobsleigh jamaïcain. Et ils finissent dernier, ce crâne.
Ouais, applaudis par tout le
monde. Mais il est pas du tout objectif, ce film. Les commentateurs, ils ont le maillot de la Jamaïque, moi aussi. Et oh, les gars, oh, on est où, là ?
Du coup, après, tu parles de l'éducation, qui est, à mon avis, une autre partie de ton spectacle que tu remets là. Tu fais la différence entre l'éducation à l'ancienne et l'éducation de maintenant. Et ça te permet aussi de jouer des personnages de cours de récré.
Ouais, bah, les cours de récré, c'est...
Résultat, ma fille a toujours peur de la mort. Mais c'est pas évident d'éduquer ses enfants. L'éducation, ça a énormément évolué aujourd'hui. Aujourd'hui, si t'as des enfants, tu dois plus leur crier dessus, tu dois plus leur mettre de fessées, tu dois plus les taper. En gros, tu peux plus être un père des années 90. Et ça m'a manqué parce que lundi matin, dans la cour d'école, il y avait des récits un peu croustillants. C'est tes potes venaient te voir et tu fais hey, les gars, venez voir. Ce week-end, mon père, il m'a frappé avec sa ceinture, regardez. Waouh, Lévis. Ah, eh bon, on se fait pas chier, mon gars. Moi aussi, mon père, il m'a frappé avec une ceinture, regardez. Chippy. Bah, il t'a frappé avec la ceinture de ta sœur. Ah non, c'est la mienne. Oh, PD. Ah bah, c'était une autre époque, hein.
Non, mais moi, victime au collège. Hein. Flaubert aussi se faisait taper.
Okay.
On a une phrase avec Flaubert qu'on a vécu. Tu sais, t'as des grands qui te prennent. Ils font, bah alors, pourquoi tu te tapes?
Ah, oui, quand tu te prends les mains, toi-même avec tes propres...
J'ai vraiment des visions de mecs, des têtes de mecs, je les reconnaîtrais direct, des mecs, des connards. Moi, c'est ce que je disais, j'étais content de cette blague dans Origine.
Ouais.
J'ai dit, moi, j'étais dans un collège, il n'y avait pas assez d'élèves dans les collèges et les lycées, donc on regroupait. Mais t'arrivais, t'avais 11 ans. Et moi, j'avais vraiment des gars de 18-19 ans dans la cour, quoi. Donc, t'avais des écarts d'âge fous.
Ouais.
Et donc, j'avais cette blague. Que j'aimais bien parce que la blague, elle était efficace. C'était,
Parce que moi, je suis arrivé en 6e, j'avais 11 ans. Et je tombais sur des gars dans la cour qui avaient 19 ans. Les gars passaient leur bac pour la deuxième fois. Il y avait des conversations sur Alice dans la cour. Les gars disaient, bah, tu vois, moi, je viens d'acheter une bagnole, j'ai voté Chirac. Je peux te dire que c'est important. C'est important de voter. Qu'est-ce que t'en penses, toi? J'ai un poney, il s'appelle Cracotte.
Ouais.
Oui, ça, j'aimais bien ces blagues, c'était parce que ça retranscrivait vraiment ce que je vivais en Basse-Normandie.
Tu l'as fait à Montreux, celle-là. C'était pas dans le passage de l'année dernière, c'était dans un...
C'était, ouais, j'ai dû la faire à Montreux, celle-là. Ouais, ouais. Mais vraiment, j'ai vécu ça. Des mecs, des darons. Je me souviens, j'avais un casier et j'avais mon ballon de basket. Je mettais ça dans mon casier parce que je faisais des paniers de basket tout le temps parce que je voulais être basketteur professionnel.
C'est vrai.
Et je mets ça dans mon casier et il y a un mec qui fait hey, fais voir ta balle. Pardon, fais voir ton ballon. D'accord. Je lui donne, il prend le ballon, pouf, et il met un coup de pied, et le ballon, il va à l'autre bout de la cour. Et je fais, oh non. Et je vais le chercher.
Et du coup, tu t'en es pas sorti au collège avec ce côté énergie, comédie,
pas du
déconne,
tout, j'avais pas du tout ça, j'étais victime.
Ah ouais, mais pourtant, pour moi, quand je te vois sur scène, j'ai l'impression que quand t'es sorti du ventre de ta maman, t'avais tout de suite ce truc d'énergie, de malade. Ou...
Dans l'intimité, je suis pas comme ça, hein, avec mes filles, ma meuf, je suis pas comme ça, je fais des blagues à mes filles, je fais des blagues qui sortiront jamais de la sphère privée.
Bien sûr.
Je fais des spectacles de marionnettes catastrophiques. Je fais des trucs...
Mais t'as quand même besoin de faire du sport tous les jours.
Je fais du sport tous les jours pour canaliser ça, mais je suis pas comme ça dans la vie. C'est vrai que mes parents, ça leur a fait un choc parce que j'étais très introverti, très timide, très réservé. J'ai jamais fait exploser de rire mes camarades de classe. En revanche, à l'internat, où je m'étais fait victimiser les 2-3 premières années, sur les dernières années, quand je suis arrivé en première, en terminale, plutôt que de jouer le Golgoth machin... En revanche, j'avais plaisir à faire marrer mes potes à l'internat. Okay. Je sais qu'il y avait des gars, ils étaient dans la piole, et quand je rentrais dans la chambre, ils me regardaient et ils disaient « Oh là là, attention, c'est parti, le spectacle va démarrer. » Et j'aimais foncièrement les faire marrer. Ça me faisait vraiment plaisir de les faire marrer. Mais j'étais pas dans une optique de me dire « Ah, fais de la scène, fais ci, fais ça. » Pour moi, c'était réglé. Un prof d'anglais en Normandie, coming out à 44 ans, et puis c'était réglé, je me suicide, et puis voilà, c'était fini. Mais j'ai jamais fait de théâtre, jamais fait de cours, jamais de rien du tout. Donc, j'étais vraiment dans une optique de faire rire pour le plaisir. Ça m'est arrivé beaucoup plus tard. Beaucoup plus tard, en voyant des sketchs à la télé à n'en plus finir. Et parce que j'ai commencé à faire des sketchs en colo de Franck Dubosc et que les gens me disaient « Putain, tu le fais bien. » Tu vois, ah bon ? Ah ouais, tu le fais bien.
Et encore la ceinture dans les années 90, c'était sur le déclin, c'était vintage. Déjà, moi, mon père, il me disait « Oh, estime-toi heureux. » Moi, à ton âge, c'était des grands coups de martinet que je me prenais. Alors ça aussi, c'est un objet incroyable, le martinet. Le martinet. On a complètement modifié les paramètres d'utilisation de cet objet. Faut savoir un truc, c'est qu'à la base, le martinet, ça servait à enlever la poussière des vêtements. Ensuite, on s'en est servi pour punir les enfants. Et aujourd'hui, moyennant supplément, une prostituée peut s'en servir pour souiller un comptable. Moi, je pense que l'inventeur du martinet doit être en ce moment même en enfer avec Satan dans le carré VIP. Oh, il est là, mon champion, là, mon champion! Oh, t'es un gros dégueulasse, toi, hein? Non, mais en fait, à la base, c'était pour enlever la poussière des vêtements. Oh, regardez-le, là, le modeste, hein? T'es bien comme l'inventeur du sopalin! Non, mais moi, à la base, c'était pour les mains! Musique, salsa du démon! Salsa! Et c'est tout le temps la même. Merci. Vous n'êtes pas en rythme, arrêtez. Merci. Et on peut remonter comme ça par décennies.
Le défaut que j'ai en séance d'écriture, c'est que quand je bute sur une vanne, je me souviens très bien avec Flaubert sur le spectacle, il y avait une vanne qu'on ne trouvait pas. Je dis, putain, attends, on n'a pas la blague. Et Flaubert, c'est pas grave, on passe à autre chose. Non, non, attends, on va trouver. Et vraiment, on est resté une journée entière sur une blague qu'on ne trouvait pas. Et on l'a trouvée, cette putain de blague. Mais je te jure, j'ai dit, Flaubert, on ne bouge pas tant qu'on n'a pas la blague. Et lui, à un moment donné, il m'a dit, mais bah, c'est pas possible. On ne va pas faire ça à chaque fois. Mais en fait, ça me rend ouf de pas avoir la blague.
Tu peux me la donner, la blague ?
C'était sur... Ouais, je me souviens. C'était sur les lunettes, sur l'invention des lunettes. On faisait un truc sur l'évolution. Et il y avait... je dis, tout a évolué dans la vie. La sodomie a évolué. La sodomie, c'était illégal jusqu'en 1791. 2 ans après la Révolution française, il y a un gars qui a dit « La sodomie, c'est cool ». Et je dis, on n'avait pas la blague sur... l'évolution, c'est génial. Même s'il y en a toujours qui disent « Ouais, c'était mieux avant, je ne suis pas d'accord ». Et on ne trouvait pas un truc qui était moins bien avant que maintenant. Et je disais, mais il y a bien un truc qui est arrivé. Et on s'est dit, putain, mais comment on a pu tenir avant sans ça ? Alors, il y avait des événements d'électricité, des trucs comme ça. Mais bon, c'était des blagues n'étaient pas drôles. Et je dis, mais putain, mais il y a un truc plus évident à trouver. Et en fait, c'était les lunettes. Et je dis, mais mec, il y a des armées. Il y a des mecs qui ont été à la bataille, des archers. Ils voyaient flou. Et un jour, et j'ai juste repensé au film Gladiator, au début où ils se battent. Oui. Et j'ai imaginé un gars faire ah, je vois rien. Un mec qui dit tenez, ah non, mais tu es passé des lunettes. Et j'avais pas la blague. Et il dit recule. Il met les lunettes. Il dit et dites-le moi que je me bats avec une raquette de badminton. Et c'était ça. J'ai passé une journée là-dessus. Ça me rendait ouf. Et Flaubert me dit mais mec, t'es un malade mental. Passons sur autre chose. Et on avait des blagues. Après, on avait des blagues sur l'invention de la fusée, de la valise à roulettes. On avait plein de trucs. Hein. Ouais. Mais j'ai dit non, je l'ai pas là. La 2, je l'ai pas. 1, 3, 4. Il n'y a pas 2. C'est quoi 2 ? On trouvera. Non. On va trouver maintenant.
Ah, c'est marrant, c'est assez structuré. 1, 3,
4. Ah non, c'est très structuré. Parce que Flaubert, il m'a tellement mis une structure dans la tête sur ce troisième spectacle que j'ai pété un câble là-dessus.
C'est quoi le nom de ton nouveau spectacle ?
Voir les gens.
Ah oui, voir les gens. Mais c'est pas fini.
Non. Ça,
parce que je t'ai vu finir un théâtre sur
à la Renaissance, ouais. Okay. Et on va à l'Olympia en avril.
D'accord, ok.
Avril 2023.
Moi, mon père me frappait avec tout ce qui lui passait sous la main. Une pelle, une pioche, un thorax de chèvre. Et dans les années 50, je vous rappelle quand même que dans les années 50, il y a des enfants qui ont été élevés par des gens qui venaient terminer une guerre. Comment tu voulais que ça se passe bien ? Viens, fiston, viens voir. Oui, papa, qu'est-ce qu'il y a ? Joyeux Noël. C'est quoi mon cadeau ? Attends 2 secondes. De l'oxygène ! J'ai pas eu le temps de l'emballer, désolé. Donc forcément, quand mon père garde mes filles, il y a quelques couacs. C'est normal. C'est l'ancienne génération qui juge la nouvelle. C'est Michel Sardou qui joue à Fortnite. Ouais, moi, à mon époque, on faisait ça avec des Algériens.
Mais j'aime les blagues, j'aime foncièrement les blagues. J'adore les blagues, j'adore trouver une bonne blague. J'adore quand t'as une bonne blague, tu dis « Putain, j'ai une bonne blague, je vais la faire, je vais en faire un truc, je vais étirer le truc. » Tu vois, j'étais content. Une lionne qui lèche le trou du cul d'un paresseux, ça me fait rire. Je suis content, je me dis « Putain, j'ai une bonne blague. » C'est un peu crade, c'est un peu absurde, mais c'est rigolo, le contexte est marrant. Et quand j'ai pas la blague, ça me rend fou. C'est pour ça que le plagiat me rend dingue, parce que c'est des mecs qui vont la faciliter. Ils disent « Je pique la blague, j'en ai rien à foutre. » Alors que le vrai truc, le vrai métier, c'est de s'écorcher le cul et se dire « Là, on va la trouver, cette putain de blague. »
C'est ta dopamine de travail, quoi, enfin, tu vois. Parce que du coup, t'es obligé de rester sur ton truc.
Le soulagement que c'est d'être avec ton pote, d'écrire. Tu dis un truc, il fait... Et il est par terre de rire.
Ouais.
Tu vois, Flaubert, moi, il m'a tué sur des séances d'écriture dans le nouveau spectacle. Je raconte une histoire vraie où un jour, je marchais dans la rue et ma fille, elle a vu un nain pour la première fois. Elle fait « Un nain !» Et le mec a entendu, quoi. Et je dis « Et c'est vraiment... Le mec m'a regardé vraiment vénère. Je dis « Bah, pardon, c'est la première fois qu'elle en voit en vrai. » Enfin, tu vois, elle dit « Oh, regarde, papa, un nain, trop rigolo !» Et Flaubert, et je dis « Mais le nain était juste là, quoi. » Et je voulais dire, matérialiser le fait qu'il était à côté. Et Flaubert m'a dit « Pour vous donner un ordre d'idée, il était plus près de nous qu'il était grand. » Voilà, il m'a tué. Il était plus près de nous qu'il était grand. Oh, j'ai fait putain, enculé. Quel génie. Je pouvais le sucer, là, parce pour moi. Ouais, c'était bon, tellement drôle. J'ai fait, mais mec, c'est génialissime.
T'as besoin de bosser en équipe, en fait.
Avec Flaubert de plus en plus, oui. Là, ouais. J'ai trouvé un duo. Enfin, là, j'ai trouvé mon partenaire qui, moi, m'a vraiment sorti de ma zone de confort sur ce troisième spectacle. Il m'a structuré le spectacle. Il m'a dit, on démarre par des vannes, on fait des blagues. Il m'a dit vraiment au début, on fait des blagues accessibles à tout le monde. Fais pas d'absurde trop vite. Il y a vraiment toute une phase de blagues d'observation que j'aime bien, que j'aimais beaucoup, qui est moins ma came maintenant. Mais j'avoue, les blagues d'observation, quand c'est bien observé, Jerry Seinfeld étant le maître.
C'est plus du quotidien, un truc plus ancré dans le réel.
Une fan d'observation absolument folle, pour moi, c'est tu rigoles même plus. C'est tellement brillant. Jerry Seinfeld, quand il dit, quand tu prends ta douche et que tu vois un cheveu sur le mur de la douche et que tu prends l'eau comme ça avec tes mains et que tu jettes l'eau pour faire descendre le cheveu, plutôt que de le prendre avec ton doigt et de le jeter, et que tu le fais coulisser tout doucement en jetant de l'eau, et là, tu te dis, oh putain, mais mec, mais comment t'as fait? Et tu te dis, mais putain, mais c'est évident, c'était là, et tu l'as toi et pas nous. Et je trouve ça, c'est humour d'observation, mais là, on parle du dieu vivant, ouais. De l'humour d'observation, qui est Jerry Seinfeld, là. Après un spectacle entier, Jerry Seinfeld me fait chier. Hein. Je le dis clairement. J'aime pas regarder une heure et demie de Jerry Seinfeld. J'aime bien regarder plein de petits bouts, dire c'est bien d'observer. Après, je passe à autre chose.
T'as un peu d'humour d'observation avec ce que ta vie de famille et tes filles t'en parlent quand même.
C'est plus du storytelling et du ressenti que de l'humour d'observation.
Il y a pas longtemps, j'ai ramené mes filles en Basse-Normandie, dans ma région. J'ai confié mes filles à mon père. Un peu stressant. C'est quand même très stressant de confier ses enfants à l'homme qui m'a dit un jour « Mais t'inquiète, je peux conduire bourré, je suis au son planqué les flics. Et si jamais je m'endors, t'hésites pas à me réveiller avec l'allume cigare. Hein. » Donc je laisse mes filles à mon père, je dis « Papa, je vais attendre quelques heures, je te demande juste un truc, une consigne, une seule, pas de fessée. » Je fais comment si elle pleure? Tu veux que je leur mette des gifles? Non, tu frappes personne. Juste si elle pleure, t'essayes de comprendre pourquoi elle pleure. Ça m'a l'air compliqué ton truc là. Pars tranquille, j'improvise. Je reviens quelques heures après, la grande vient me voir, fait papa, j'ai perdu la nationalité française et j'ai été obligé de tuer un sanglier avec une scie sauteuse. Et putain papa, qu'est-ce qui s'est passé? Elle voulait pas mettre ses chaussons. Ok. Et la petite, elle est où? Bah, la petite, elle est rien, impeccable. C'est pas la petite, ça, hein? C'est un pot d'enduit avec une perruque. Ah, tu t'en as rendu compte? Bon, en fait, on était chez le roi Merlin. Mais attends, papa, elle est où, la petite? Oh, c'est pour me couper la parole, c'est pas la peine, hein? Pardon, papa, elle est où, la petite, s'il te plaît? On était chez le roi Merlin, on a fait un cache-cache. Et bah, elle a gagné. 23h30, je peux te dire, championne la petite, hein. Mais putain, papa, pourquoi vous avez pas fait un truc plus simple? Pourquoi vous avez pas été, je sais pas moi, à la piscine par exemple? Bon, on peut pas, c'est mercredi. Quoi, c'est fermé? Non, il y a les flics au rond-point. Merci beaucoup, mon truc. Merci à Philippe.
T'as fait ce passage l'année dernière et cette année, t'es dans le gala de Bérangère Krief.
Ouais.
Et du coup, je voulais voir avec toi comment c'est arrivé sur la table ce truc, parce qu'au final, Bérangère, elle avait un thème pour son gala qui était le cirque l'amour.
Ouais.
Et du coup, elle se retrouve dans une boîte de magie, où elle est coincée dans cette boîte de magie, et toi, tu joues un patron de cirque
c'est
en burn-out.
C'est la contrainte qu'elle m'a donnée, ouais.
Et ça part loin.
Ouais. Ouais, c'était la contrainte qu'elle m'a donnée. Elle m'a dit, voilà, on a fait une réunion avec Nicolas Vital, qui fait sa mise en scène et qui est créé sur les spectacles de Bérangère, et Grégoire Day, qui est un excellent auteur. Et ils m'ont dit, voilà, juste Bérangère est sur scène, elle est bloquée dans une boîte et toi t'arrives. Et ils m'ont dit, qu'est-ce que tu penses faire? Comme d'hab, hein, incapable de rester assis, j'ai fait la réunion debout, à m'agiter dans tous les sens, et je les voyais noter des trucs. Et puis voilà, j'ai dit, il pourrait se passer ci, il pourrait se passer ça, et je le jouais en live, et ils notaient au fur et à mesure, donc on est parti très vite sur cette idée-là parce que la contrainte du sketch, elle est quand même importante. Bérangère ne peut pas bouger. Donc, il faut que...
Ouais, elle est coincée dans une boîte de magie, vraiment.
C'est très simple. Soit Bérangère est coincée dans une boîte et je suis PPDA. Et
c'est bizarre.
Et c'est bizarre. Soit je suis Baptiste Caplin, je vais faire je vais parler avec des animaux, des personnages qui n'existent pas.
Oui, tu rentres en allemand, t'engueules un loup.
99, Francis Gosen. 6, 9.
Baptiste Caplin.
Dis donc, Ludovic.
Baptiste.
Quoi,
Baptiste,
quoi. Ça... deux secondes, je dois faire une annonce. Excusez-moi, je dois faire une annonce. Bah, c'est mon boulot.
Ouais. Mesdames et messieurs, ce soir dans votre ville, le cirque Amour de l'amour de l'humour. Vous voulez rire, vous voulez vous faire aimer, le cirque Amour de l'amour.
Pardon Bérangère, excuse-moi, je dois faire une annonce. Deux secondes, téléphone. Ah oui, allô, la commande de Libreau.
Mais à l'arrivée, voilà, c'est un sketch qui mériterait d'avoir énormément de répétitions et de jouer. On va le tailler, mais tu vois, entre hier soir et ce soir, on le refait une deuxième fois. Je vais enlever 3 minutes.
Ouais. Ouais, mais parce que tu le sens tout de suite, dès que t'es monté
sur
scène.
Ouais, j'ai senti direct.
C'est ça, quoi. Et puis tu vois ce qui marche pas, c'est des trucs.
Mais c'est même tétanisant parce que je suis sorti de scène et en fait, hier soir, j'ai vraiment joué en me disant, ok, là ça va pas, et je me soucie même plus du public. Donc c'est assez flippant de te dire, j'ai 1800 personnes. Je ne m'occupe pas d'eux. Je suis sur mon interprétation, mon texte et les corrections qu'on va devoir apporter demain. Ah oui, là, ils ont rigolé. Ok, d'accord. Ok, bah, pense bête. Là, ça a rigolé. Ah, là, ça rigole pas. Faut réduire là. J'ai 3 cerveaux quand je joue, en fait.
Ça s'est pas vu du tout.
Ouais, crois-moi, je l'ai vu, moi.
Ouais, mais toi, parce que t'es habitué, puis t'as l'œil sur toi.
Je regardais dans l'écran.
Je pense que tu te connais un peu.
Oui, mais je me voyais dans l'écran. Ah, c'est vrai, c'est cirque, je fais. Oh là là.
Comme dans la salle, il y a un écran géant qui retransmet les plans serrés pour les gens qui sont un peu plus loin, vraiment en haut à gauche de la scène. À gauche quand t'es sur scène. Il y a, du coup, tu te vois et toi, tu te regardais ta propre capta en même temps que tu l'as joué.
Bah, c'est très dur, d'arriver à ce que les gens se disent. Enfin, c'est très. Faut pas que les gens soient vexés, hein. Mais on pensait au rendu télé aussi, parce que c'est un gala capté télé, il faut penser au rendu télé. Donc j'étais là à me dire, alors attends, fais attention à ci, fais attention à ça, tel effet, pose le plus, quitte à ce que ce soit un petit peu moins marrant pour les gens, mais qu'à la télé, ce soit pas trop speed et que ce soit pas trop exclusif pour les gens qui vont regarder. Le cerveau, il mouline, mais... c'est une lessiveuse, hein.
C'est pour ça que t'es crevé quand tu sors.
Mais je suis sorti, je savais exactement ce qu'il fallait. Je pouvais l'enchaîner direct et je savais déjà où couper. Et j'ai vu voir Nicolas direct, j'ai dit oh, faut couper ça.
Les gens sont taqués sur ton numéro de magie, t'as intérêt d'assurer.
Non, bat, excuse-moi, je suis coincé dans cette putain de boîte.
Mais on est tous coincés dans cette boîte, Bérangère. Je suis rentré dans cette boîte, j'avais 15 ans, d'accord ? À la base, je venais pour un stage d'entreprise en 3e. Et comme personne dans ce putain de cirque n'a été jusqu'en 3e, j'étais le mec le plus qualifié au niveau des études, je me suis retrouvé propulsé directeur général. Depuis, je gère tout, d'accord ? Les répétitions, la communication, le dressage. Non ! Nine ! Non, Ludovic, lâche ! Ludovic !
Tu lui as mis une olive, là ?
Hein ?
Tu lui as mis une olive ?
Eh, ça le calme !
Je voudrais rebondir sur le truc que tu m'as dit, où tu m'as dit quand on a écrit ce truc avec Bérangère, je suis allé les voir, donc excuse-moi, je ne me rappelle plus de leur nom.
Nicolas,
Grégoire et Bérangère, ils étaient là. Moi, j'étais debout, je ne pouvais pas être assis. Je faisais des trucs et ils ont noté des trucs. Moi, j'ai la scène là, devant moi, comme un espèce de casting.
C'est exactement ce que je fais avec Jérémy et Arnaud, généralement. Hein. C'est Jérémy, il me dit, oh, il a pris le pli, mais au début, il me dit, arrête, tu as trouvé. Parce que j'envoie.
Jérémy, c'est.
Jérémy Ferrari.
Ah oui.
Jérémy. Ça le saoule et en même temps ça lui fait plaisir parce qu'il dit il me dit allez j'ai une idée c'est ça et donc blablabla il dit attends on va faire le tri mais des fois et je me souviens on a trouvé un, bon là c'est les gars des duos par exemple on a fait un sketch qui a très bien marché qui était les hérissons.
Ok,
le thème du gala de Jérémy c'était l'ambition, donc il faut qu'on trouve des sketchs en rapport avec l'ambition. Et moi, je suis comme ça. Et très vite, j'ai l'idée, en fait. Très vite, je me suis dit, OK, c'est bon, je sais. Et Jérémy me regarde, tu penses à quoi ? Et il y avait un paperboard. Et je dis, voilà, on est 3 hérissons. Et Arnaud, il commence déjà à partir. Oh, génial ! Il me dit, mais c'est quoi l'ambition des hérissons ? Il faut traverser la route sans se faire tuer. Et Jérémy me dit, bon, bah, vas-y, allez. Je dis, bon, voilà, on fait ça. Avec Arnaud, je dis, on s'appelle comment ? Dominique, Yvonique, Émeric. Pourquoi que des prénoms hic ? Parce que c'est que des prénoms qui piquent. T'as 2 blagues et t'as déjà un sketch de 8 minutes.
Mais t'es une machine à vanne, quoi.
Non, mais je suis pas une machine à vanne. Je suis une machine à vanne quand j'ai l'idée. Je peux très bien plancher sur un truc. Machine à vanne, ça veut dire que tout est drôle et tout est efficace, ce qui n'est pas vrai.
Oui, c'est vrai, ok, d'accord.
J'ai plein d'idées parce que ça bouillonne et quand j'ai c'est un geyser. Et donc, faut choper des bons trucs. Si t'arrives à faire le tri, et c'est pour ça qu'avec Jérémy Arnaud, on s'entend bien parce que Jérémy arrive à faire.
Parce que j'adore écrire avec Arnaud et Jérémy, parce que Jérém, on peut faire une vanne trash dégueulasse, on la met dans la bouche de Jérém, truc absurde à la con, bah Arnaud et moi on se complète, on peut très bien le faire lui ou moi, on a une alchimie qui est très évidente en fait, parce qu'on est sur des registres différents et ça c'est génial.
T'as dit Zézette et Gougoute, mais t'as quel âge ?
Qu'est-ce que tu fous dans la boîte ? Oh, je sais.
Quoi ?
T'es venu poser une pêche, c'est ça ?
Mon enfant, bête.
Ça va, c'est la classique. Qui n'a pas chié dans la boîte du magicien ?
Quoi ? Les gens font ça ?
Tout le monde chie, il y a une double trappe. Si tu tires, ça fait des toilettes sèches. T'es venu chier, c'est ça ?
Mais c'est dégueulasse, putain, mais sors-moi de là.
Mais par contre, j'ai pas réussi à compter. Ça fait 10 fois que tu viens au festival, en fait.
Très honnêtement, j'ai dû venir 3 fois pour le premier spectacle, 2 fois pour le deuxième. Une fois avec FX de Maison, une fois avec Marina et Roman, une fois avec le nouveau, et là, ça doit faire 9 fois, je dois être à 9.
Ouais, ça va, t'es un peu chez toi, quoi.
Oui, mais c'est Montreux, c'est la maison. Moi, c'est ça que j'aime vraiment, en plus, c'est con, mais de voir que les gars qui te mettent le micro, c'est les mêmes chaque année. Il y a un côté rassurant, tu les vois, tu leur dis un petit truc. Parce que mine de rien, tout repart à zéro à chaque année à Montreux. C'est bien d'avoir des repères comme ça.
Ça te rassure, quoi.
Oui, c'est toujours rassurant parce que Montreux, que tu sois débutant, confirmé ou vétéran, il y a toujours l'appréhension de foirer son Montreux quand même. Parce que la salle est difficile, l'acoustique de la salle est particulière. Tu joues quand même devant 1500-1800 personnes, donc c'est pas un petit plateau.
Ouais.
T'es vraiment dans des conditions.
Oui, ce que les gens savent pas, c'est que c'est une salle Stravinsky qui a été faite pour la musique classique, donc c'est fait pour amortir le son.
Bien sûr.
Sur le côté. Donc en fait, les rires, au lieu de faire un écho, comme c'est dans la plupart des salles.
Oui, t'auras jamais une caisse de résonance fabuleuse.
Ça.
Mais tu peux faire des très très bons passages et entendre des rires. Mais c'est pour ça que quand quelqu'un cartonne et que ça arrive vraiment fort, c'est que ça arrive vraiment fort. Parce que oui, t'as plus tendance à être en dessous des standards des rires que tu as. Donc c'est pour ça que Montreux, c'est très très dur. Ça, faut pas le dire aux humoristes qui arrivent. Tu vois, moi, je vais présenter le gala première fois avec des humoristes qui viennent pour la première fois. Je leur dirai pas ça. Je leur dirai, t'inquiète, je joue normal. Mais
ouais. C'est ce que j'allais dire. Du coup, c'est ta 10e fois à Montreux. Cette année, tu viens, tu fais un passage dans le gala de Bérangère Krief.
Ouais.
Et tu fais aussi, tu hostes un gala qui s'appelle Mon Premier Gala.
Ouais, première fois avec des humoristes qui viennent pour la première fois faire Montreux. Ouais.
C'est ça. Et du coup, t'as pas mal de taf. Donc déjà, bah merci d'être là. En fait.
De rien.
C'est cool.
T'inquiète, Félix.
Est-ce que tu peux me pitcher vite fait le spectacle de demain, enfin le gala que tu vas faire, Mon Premier Montreux ? Est-ce que tu as un thème ? Est-ce que tu
Il y a un thème, c'est un thème que j'ai trouvé, dont je suis assez fier. C'est mis en scène par Thierno, qui met en scène Haroun notamment,
ouais.
Qui est un brillantissime metteur en scène. Comme le truc, c'est Grégoire Führer et Yann Renoir m'ont dit, t'es un humoriste un peu chevronné. T'as ouvert un comedy club, tu peux accueillir des jeunes humoristes et leur prodiguer des conseils pour leur premier Montreux.
Ouais.
Comme j'adore le cinéma et j'ai pas mal de références cinématographiques, tout de suite j'ai pensé à Top Gun Maverick.
Ah oui, Top Gun, c'est vrai, j'avais entendu parler.
Ouais, voilà, je suis Tom Cruise et je viens leur filer des conseils. Donc c'est... Le monologue, on l'a écrit avec Flaubert.
Il y a les Ray-Ban qui sont dans le costume.
Il y a des Ray-Ban. Non, j'arrive en parlant de Top Gun vite fait et de Montreux, du festival. J'ai un monologue qu'il faut que je bosse, qui je pensais pas trop mal. Mais pareil, il faudra avoir un petit peu d'indulgence parce que c'est un monologue que je n'ai pas testé et que je testerai en live. J'ai 2 soirs pour le, j'ai 2 soirs pour le gérer. Mais bon, écoute... Je pense que les blagues sont pas mal. On a rigolé avec Flaubert, donc écoute, nous au moins, ça nous a fait rigoler. Flaubert, il m'a dit, je sais pas si ça fera marrer les gens, mais en tout cas, moi, je me suis bien marré. On a fait des grosses vannes de geekos, de ciné dedans. Non, mais il y a des trucs très cons. En fait, j'arrive et je dis, j'adore Top Gun, et je parle de Jurassic Park, et je dis, merde, j'ai vu Jurassic Park, j'ai pas eu Top Gun. Donc, je parle de... Non, mais il y a une blague qui m'a fait rire. Je dis, non, mais c'est bon, les Jurassic Park, Top Gun, c'est les films américains, c'est pareil. Je vais juste remplacer le T-Rex par Tom Cruise, ça a marché. Qu'est-ce que j'aime cette scène quand Tom Cruise, il arrive et qu'il mange le mec sur les toilettes. Ah non, merde, putain, ça marche pas du tout. Tu vois, cette blague, moi, ça m'a fait hurler de rire.
Top Gun ! Top Gun, Top Gun, Top Gun ! Quel putain de bon film ! J'ai préféré le bouquin. Alors, je sais, Montreux, vous vous posez plusieurs questions. Pourquoi ce gars-là ? Pourquoi des danseurs ? Est-ce que Baptiste porte un slip sous sa combi ? Joker. Je répondrai à cette question. Pourquoi ce gars-là ? Pourquoi le gars-là ? Top Gun ! Parce que c'est mon film préféré. Top Gun ! Top Gun ! Top Gun ! Top Gun ! je connais toutes les scènes de ce film par cœur. Notamment la scène où les enfants sont dans la Jeep comme ça, et là, un T-Rex essaye de les mains. Ah non, putain, c'est Jurassic Park, ça. J'ai pas vu Top Gun, en fait. Je l'ai pas vu. Bon, on s'en fout. Hein, de toute façon, les films américains se ressemblent tous. Je vais juste remplacer le mot T-Rex par Tom Cruise. Oh, je connais toutes les scènes par cœur. Ma favorite, c'est quand Tom Cruise arrive comme ça et qu'il mange l'avocat sur les toilettes. Oh, putain, non, c'est si Jurassic Park. Oh, c'est pas grave. On s'en fout. Hein? Moi, je suis surtout fan de Tom Cruise. J'adore. J'ai plein de points communs avec Tom Cruise. Hein. Tom Cruise et moi, on court vite. Tom Cruise et moi, on a des dents. Tom Cruise et moi, on vit dans un parc qui a été créé par John Hammond. Oh putain, le fiasco, c'est encore Jurassic Park. C'est quand même con qu'on fasse pas de gala sur Jurassic Park, hein. Mais non, mais je connais le film par cœur. Bon, j'aurais fait un gala super. Je serais arrivé en dino, comme ça. Vous êtes prêts à accueillir le prochain, mesdames et messieurs, un brachiosaure. Merci, Baptiste. Il y a des T-Rex dans la salle par applaudissement. Je peux pas applaudir, j'ai trop petits bras. Est-ce que vous savez comment on appelle un dinosaure choisi au hasard? Un tirage au sort. Oh, c'est nul, ça a chier. Ah, mais fallait que je le dise à vous autres pour m'en rendre compte, c'est à chier.
Ouais, d'accord, ok, je vois.
Non, mais ça démarre un peu comme ça, et après je parle un peu du gala de Montreux. Il dit, voilà, c'est les humoristes qui vont venir pour la première fois. Montreux, c'est un festival prestigieux, les artistes viennent du monde entier.
Tout le monde rêve de faire le festival de Montreux, mais bon, assez parlé du festival de jazz. J'aimerais parler du festival d'humour.
Donc, tu vois, je l'avais en tête depuis longtemps. Il dit, voilà, c'est le plus grand festival d'humour d'Europe. Calmez-vous, vous êtes le seul. Il faut quand même se détendre. Il dit, voilà, des humoristes vont venir. Il faut bien les accueillir. C'est important, un premier Montreux. Et puis après, voilà, rouler jeunesse. Et après, c'est des humoristes qui viennent faire Montreux pour la première fois. Il y a Thomas Angelvi, qui est un excellent humoriste, qui a bien roulé sa bosse à Paris, à The Joke notamment. Il y a Nash aussi, qui est génial. Ouais. Et puis après, tu as plein de jeunes humoristes. Et puis après, t'as des humoristes africains, t'as des Canadiens, t'as des gens qui viennent là pour la première fois. Ça va être un sacré truc. Mais très sincèrement, hier soir, ils ont fait une répétition générale à The Joke. Tout s'est très 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 bien passé apparemment. Voilà, ils ont fait rigoler 60 personnes. Maintenant, ils refont une répète générale à Genève.
C'est bien de faire ça, des petites répètes comme
ils
ça.
Ils font 60 ouais. Et 1800. Donc moi, voilà, j'ai quelques inters avec eux où je leur donne des conseils. On a écrit quelques inters très courts avec Thierno et puis les auteurs qui ont été très 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 bons aussi. Mais c'est très simple, hein, voilà. Et la sève principale de ce gala, ça va être les passages des humoristes, en fait.
Donc, règle numéro 1. Avoir un bon personnage. Notez ce que je dis, notez là. Règle numéro 2, avoir un bon texte. Attention, n'entrez pas sur scène avec trop d'artifices. Si vous rentrez avec du son, de la lumière, ça prouve que vous êtes un humoriste en difficulté. Ça prouve que vous êtes un humoriste de merde. Hein.
Comme toi au début, là, quand t'es arrivé avec la danse, le tricycle...
Et oh, sur les rames ouais. Je vous dis pas comment faire un barrage de castor, donc vous me dites pas comment donner mon cours, d'accord?
Ça, c'est raciste.
Non, c'est pas raciste, c'est de l'autodéfense. Voilà. Donc... Autre chose très importante dans l'humour, primordial même, le public. Le public. Assurez-vous qu'il y a bien un public dans la salle. Hein, c'est important de jouer sur les silences, mais s'il n'y a personne, évidemment, ça compte pas. Hein.
C'est ça vos conseils, monsieur?
C'est ça, oui, c'est ça mes conseils, oui. Oh! Elle a pété! Vous avez entendu Nash, elle a pété.
J'ai pas pété.
Elle a pété, gros.
J'ai pas pété.
Nash, la péteuse.
J'ai pas pété.
Monsieur, si, t'as pété.
S'il vous plaît, monsieur.
Taisez-vous. Qu'est-ce qu'il y a, monocouille?
J'ai une petite question, monsieur. Est-ce qu'on peut rire de tout?
Est-ce qu'on peut rire de tout? Oui. Si, c'est pas filmé. Non, évidemment.
Moi, j'ai pas compris. C'est quoi l'humour,
en fait? J'ai pas compris. Mais c'est quoi l'humour, en fait? Mais c'est quoi l'humour, en fait? J'aime la soupe, je suis grand, j'ai la météo en avant-première. Oui, Alex Fredo, c'est une très bonne question. Donc, qu'est-ce que l'humour? Quelqu'un d'autre? Quelqu'un d'autre? Personne? Bon, Nash, arrêtez de forcer comme ça, vous allez répéter. Donc, c'est quoi l'humour?
L'humour est une forme d'esprit qui consiste à dégager les aspects plaisants et insolites de la réalité.
Faux! Nul! À chier! L'humour, c'est ça. Depuis la nuit des temps, l'humour se concentre ici. C'est une bite, c'est un zizi, c'est une quéquette. Attendez, là c'est rigolo. Attendez, vous avez pas tout vu. Regardez, là, c'est une bite avec une chemise. Elle a pas boutonné le bouton du haut. Ça veut dire que c'est une bite cool. Ça doit être pendant le casual Friday. C'est une bite qui fait des blagues à la machine à café. Véronique, je te ramène. Où t'habites?
Où t'habites?
C'est rigolo.
Mais c'est pas marrant, c'est...
Moi, c'est pas marrant, ça. Moi, c'est pas marrant. Céline Dion, pancake. Et dire tabernacle, tabernacle, à la fin, c'est rigolo de dire tabernacle.
Je suis pas toujours tabernacle.
Et là, qu'est-ce que vous venez de faire? Ouais. Allez!
Monsieur?
Quoi?
Monsieur?
Quoi?
Du coup, est-ce qu'il faut un pénis pour être marrant?
Est-ce qu'il faut un pénis pour être marrant? C'est filmé? Oui? Non. Il faut... Mien! Allez, cassez-vous! Rompez, 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 rompez! Allez hop, fin de la classe!
J'aime bien terminer les podcasts avec le passage d'un artiste à Montreux, que t'aimes bien ou sur lequel t'as envie, faut en choisir qu'un seul.
Que oui. Un passage de Montreux que j'ai adoré regarder?
Ouais, par exemple, ça peut être intéressant, ça. De ouf.
Un des plus... Oh, putain, il y en a deux que j'adore. Il y a une vanne qui est incroyable. C'est Fabrice Eboué. C'est avec Ken que j'en dis, c'est... pour nous, le meilleur démarrage de sketch de tous les temps.
Ah, c'est quand il arrache le minaret sur la...
Non, ouais, c'est dans ce passage-là, mais c'est l'intro. Laurent Ruquier le présente. Il dit... C'est un peu trash, mais bon, c'est très drôle. C'est Eboué, quoi. C'est... Laurent Ruquier dit, on va recevoir un noir sur scène. Ah oui, nous aussi, on a des quotas. Mesdames et messieurs, Fabrice Eboué. Fabrice Eboué arrive, il fait, Laurent Ruquier, messieurs, dames. Laurent Ruquier. Gros pédé. Il dit ça. La salle, elle est hila. Il dit, non, mais encore un noir. Moi aussi, je vais le présenter comme ça. Encore la tafiole.
Oui, je me souviens.
Et après, il démarre, il fait énormément d'homosexuels dans le show business. Astérix et Obélix. Et après, il avait tout un sketch sur les homosexuels. Il y avait Astérix et Obélix. Bah, t'appelles ça comme tu veux. Deux moustachus qui habitent dans une maison avec un petit chien. Et puis après, il parle de Tintin. Il parle de la Schtroumpfette qui se fait déglinguer. Et c'était très, très, très drôle parce que la vanne, elle est très homophobe, mais comme c'est Laurent Ruquier et qu'ils l'ont répété ensemble, bah c'est très, très drôle. Et le propos qui suit derrière est extraordinaire. Groupe 2, et donc la salle. Oh là là, putain, mais nous, mais qu'est-ce qu'on a ri avec Kian sur cette intro. Il dit, mais c'est fou de démarrer comme ça. Eboué, c'est un génie. En passage isolé, Eboué, il a fait des cartons phénoménaux. Et t'as aussi, je recommande, Alexis Macquart, qui avait fait un passage extraordinaire.
Alexis Macquart,
Montreux. Il n'y a pas une blague qui ne marche pas, je crois. Sur 8 minutes, il fait un carton monumental. Et c'était pour plein de gens la référence. Faire une Alexis Macquart à Montreux, c'est un auteur extraordinaire qui a beaucoup écrit.
Attends, c'est
là.
Une Paul Mirabel.
Ouais, Paul, ça a beaucoup marché sur les réseaux après. La vie derrière son passage a été folle. Ouais, il a fait 18 millions de vues, ouais. 20 millions de vues. C'est énorme.
Ça marche toujours.
Ouais, c'est le record. Mais voilà, je conseille Eboué ou Alexis Macquart aussi, c'est un petit bijou.
Merci beaucoup.
Merci Phoenix. Merci Yellow Mike.
Puisque c'est le quart d'heure black, ah oui, on a nos quotas, nous aussi. Hein. C'est quelqu'un que je connais bien qui va venir maintenant sur scène ici à Montreux. Quelqu'un qui travaille avec moi sur Europe 1, qui triomphe actuellement sur scène, en tournée, à travers le monde. Voici Fabrice Eboué.
Laurent Ruquier, messieurs dames. Gros PD. C'est quoi cette façon de me présenter? Encore un noir, c'est le dernier, on vous promet. C'est... Parce qu'à chaque fois qu'il monte sur scène, on dit encore la tapette, elle revient, ça va quoi. Non, faut se soutenir entre artistes, ça va deux minutes, quoi, parce que si on commence à balancer, ça va, hein, je peux vous dire. Michael Gregorio, il est en playback depuis le début du spectacle. Non, mais je dis ça parce que les homosexuels, il y en a beaucoup dans le show business, quoi. Parce que eux, c'est une minorité invisible, si tu veux, ça se voit pas sur ta gueule que tu te fais enculer, donc c'est là où, si tu veux, c'est... Mais non, mais c'est ça le problème, il y en a beaucoup, c'est... Astérix et Obélix, par exemple. En voici Astérix et Obélix, deux jeunes célibataires moustachus qui habitent sous le même toit avec un petit chien, t'appelles ça comme tu veux, mais... Ça m'étonnerait pas que la potion magique ait un arrière-goût de Poppers, hein, je vais te dire. T'imagines si Obélix est tombé dans une marmite de Poppers quand il était petit, ouais.
Merci beaucoup d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout. Si l'artiste que vous venez d'écouter vous a plu, sachez qu'il passe certainement sur scène pas très loin de chez vous bientôt. Donc profitez-en pour aller le voir en vrai. C'est quand même vachement plus sympa que de l'écouter en podcast. Et moi, je vous remercie vraiment pour votre fidélité. Et puis je vous donne rendez-vous dans 2 semaines avec un nouvel invité. Allez, bisous.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more, with Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to Quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.